Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, nos vies sont ponctuées par les chansons que nous avons aimées, qui nous ont marqué tel ou tel épisode de notre vie. C'est la mémoire musicale d'un peuple que Franck Ferrand a choisi de réveiller en cette fin de semaine, et peut-être qu'il va chanter effectivement. Bonjour Franck.
Eh bien, l'attention, la pression est forte. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous êtes bien placée, vous, Julia, pour mesurer l'importance des chansons. Vous en avez fait une émission. On a toujours chanté en France, et depuis un siècle, pas moins qu'auparavant. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est dégrainer ensemble un certain nombre de titres qui ont marqué notre mémoire commune.
Et vous avez invité deux grands spécialistes de la question.
Et oui, le président d'honneur de la SACEM, Claude Lemel, qui a lui-même écrit quelques chansons fameuses, est avec nous. Et puis l'homme de la musique et des chansons sur Europe 1, Thierry Lecan, bien sûr, dont c'est la première apparition dans cette émission. Je suis très heureux de l'accueillir.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
En France, tout finit par des chansons, chante le personnage de Brie d'Oison pour clore le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'était en 1784. À quoi Chamfort faisait écho à la même époque en disant que le gouvernement de la France était, je cite, une monarchie absolue tempérée par des chansons. Cette habitude de tout mettre en musique et de pousser la chansonnette à tout propos n'a fait que se développer par la suite sous la Révolution. J'ai pas besoin d'entonner la Carmagnole, mais ça ferait plaisir, je crois, à Patrick Roger. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons, voilà. Carmagnole. Et puis sous l'Empire, pour donner du cœur aux soldats. Sous la Restauration aussi, avec toujours cette dimension frondeuse, politique, qui en France s'attache aux ritournelles. Les chansonniers d'aujourd'hui et d'hier sont les héritiers de toute une tradition. Nous dirons un mot, là, tout à l'heure, des Mazarinades, bien entendu. Et plus tard encore, à la Belle Époque, on chante au théâtre et dans les guinguettes, dans les cabarets et bien sûr aux armées. Chansons graves ou légères, engagées ou comiques, du beuglant au comique troupier, de la chanson à texte, hein, avec partition. Vous savez, la chanson à trois sous qu'on vend avec partitions et paroles au coin de la sortie du métro, au manifeste de rue. Les Français continuent de chanter leur joie et leur détresse. Alors, il y a de grands noms de la chanson, les Botrelles, les Bélangers, évidemment, les Bruants, en attendant ceux de Trenet, de Piaf, de Bécaud. Tous ces noms qui accompagnent nos grands-parents et arrière-grands-parents dans leur traversée des siècles, les chanteurs de rue et autres limonadiers vont se trouver relayés dès le milieu des années 20 par ces porte-voix inespérés des chanteurs que sont les postes de radio. À l'époque, c'était pas rien un poste de radio, hein. C'était plus imposant qu'une télé d'aujourd'hui. Les chanteuses réalistes des années 30, les chanteurs à texte des années 50, les artistes populaires des années 70, jusqu'aux tentatives actuelles de renouer avec cette grande tradition, eh bien voilà ce qui va nous occuper dans l'heure qui vient. On entendra, si vous voulez, aussi bien ceci.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Donc on entendra aussi bien ceci que cela.
Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour.
Maintenant c'est Julia qui chante.
C'est fini.
Puisqu'aussi bien en France, tout non seulement finit, mais tout commence par des chansons.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité sur Europe 1, le parolier Claude Lemel. Il a notamment écrit pour Serge Reggiani, Joe Dassin, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, Michel Sardou. Il est aussi président d'honneur de la SACEM et auteur de L'art d'écrire une chanson aux éditions Erol.
Bonjour Claude Lemel.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez l'histoire des chansons depuis toujours. Alors on ne va pas remonter, si vous voulez, aux troubadours et aux trouvères du Moyen-Âge, mais quand même, il faut bien expliquer à nos auditeurs que la chanson française s'ancre dans une très vieille tradition. Nous parlions avant cette émission d'une chanson célèbre, la chanson de la Palisse. On est là sous François Ier.
Hein. On est sous François Ier, on est en 1525, donc 10 ans après Marignan. La bataille de Pavie est un désastre absolu.
Ah oui, ça, on l'a raconté à ce même micro il y a 15 jours. Je crois que c'est un des pires épisodes de l'histoire de France.
Et donc, c'est le 24 février 1525. Et les soldats, pour rendre hommage à leur maréchal, Lapalisse, qui est mort donc, pendant cette bataille, écrivent une chanson. Ça se fait très, très couramment à l'époque.
Et ça va être à l'origine de ce qu'on appelle une vérité de Lapalisse.
Absolument, puisque la chanson dit « Au départ, monsieur de Lapalisse est mort et mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie. » Et petit à petit, ce « ferait en vie » devient « il serait encore en vie ». Et donc, ça donne naissance aux vérités de Lapalisse que ce pauvre malheureux Lapalisse n'a jamais proféré de sa vie, bien entendu.
Et c'est incroyable, hein, d'ailleurs, de voir à quel point, comme ça, une légende peut devenir plus forte que la réalité.
Voilà, et le destin posthume de cet homme, on a été totalement changé. J'ai revu récemment le film François Ier avec Fernandel. Bon, on voit ce personnage de Lapalisse qui n'arrête pas de débiter des vérités.
Alors ça, c'est une des origines de la chanson française. C'est une origine militaire, il ne faut pas l'oublier. Et très vite, les civils se mettent toujours à reprendre les chansons qui arrivent des armées, en quelque sorte. Mais il y a aussi une autre de grande tradition, sinon plus importante même encore, c'est la tradition politique. La chanson, c'est un moyen de dire ce qu'on n'a pas le droit d'habitude de dire, hein, dans un régime qui, évidemment, n'est pas très favorable à la liberté d'expression.
Ben exactement, le régime, comme le dit très très bien Chamfort, à ce moment-là, c'est une monarchie absolue. Donc le seul moyen d'expression des gens, c'est la chanson, puisque bon, les gens ne votent pas, bon, pas de temps en temps aux états généraux, mais enfin ils se réunissent très très rarement, et donc les gens s'expriment quelquefois d'une façon extrêmement virulente. Bon, il y a un fameux exemple effectivement que vous évoquiez tout à l'heure des Mazarinades. Donc 1648-1653, pendant la fronde, c'est ça. Et alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que un des auteurs les plus durs de Mazarinades, celui qui a écrit vraiment les plus pointus, les plus incisive, c'est Scarron. Or, Scarron est le premier mari de Madame de Maintenon, qui va devenir plus tard la femme morganatique de Louis XIV.
Cette femme, dans sa vie, aura eu deux maris. Le poète Scarron, qui par ailleurs était un infirme, hein, il faut dire, et puis Louis XIV en personne.
Et il ne faut pas oublier que Mazarin était le parrain de Louis XIV. On est dans un paradoxe aussi assez extraordinaire.
Alors ces Mazarinades, entre autres, hein, parce qu'on pourrait citer un grand nombre de textes très satiriques des XVIIe, XVIIIe siècles, permettent donc d'évoquer un certain nombre de vérités. Elles ne viennent pas toujours de la rue, d'ailleurs, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on peut trouver à la cour, chez les princes, de méchantes plumes et des langues bien acerbes qui, évidemment, vont faire passer certaines idées en chansons. Et ensuite, on retrouve les chansons dans la rue. Mais ça marche aussi dans ce sens-là.
Ça marche dans ce sens-là, bien entendu. Vous savez, bon, il y a des clans, il y a des partis. Et donc, on s'attaque aux maîtresses du roi. On s'attaque aussi au roi lui-même. Par exemple, le pauvre Louis XVI, pendant 7 ans, est incapable d'honorer la reine. Tout le monde le sait. Et là, il y a des chansons extrêmement dures, enfin terribles.
Alors, on chante partout. On chante sur les tréteaux des foires. Pas oublier que les spectacles, à l'époque, sont très souvent chantés. Hein. C'est une vraie tradition. Alors, on va voir à quel point c'est très français, puisque même si la musique est à l'honneur dans les pays germaniques, évidemment dans l'Italie, où elle est littéralement née, la musique moderne. Mais en tout cas, c'est bien en France que la chanson acquiert ses lettres de noblesse. Et le grand moment de la chanson populaire et politique, c'est la Révolution française, bien entendu. Alors là, tout passe par les chansons. Hein.
Oui, la Révolution française a généré un certain nombre de chansons, dont on se souvient d'ailleurs de certaines. Vous évoquiez la Carmagnole tout à l'heure. La Carmagnole, elle est née pour la fête de la Fédération.
C'est ça, oui.
En 1790, et au départ, elle n'était pas très virulente. Bon, on dit, en dépit des aristocrates et de la pluie, tout ira bien.
C'est pas très méchant.
C'est pas très méchant au départ.
Ça ira, c'est déjà plus dur.
Hein, voilà. Mais ça ira, ça voulait dire simplement à l'époque, tout début de la chanson, de dire, bon, tout va bien marcher, puisque on sait très bien que la fête de la Fédération, ça a été très difficile à monter. Tout le monde a mis la main à la pâte, le peuple, les nobles, tout le monde. Bon, et les gens s'encourageaient en chantant ça ira, mais dont les paroles au début étaient tout à fait anodines. C'est après que ça.
Ce qu'il faut quand même dire, ça c'est assez étonnant, c'est que l'hymne national français, c'est au départ un chant. Alors certes un chant militaire, mais c'est un chant. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des hymnes nationaux qui sont tirés souvent de musique des grands compositeurs respectifs de chaque pays. Là, chez nous, c'est une chanson, comme par hasard.
Oui, c'est ça, c'est une commande de Kellermann.
Marseillaise.
Au compositeur militaire, Rouget de Lille, bon, qui lui envoie une première version qui ne l'emballe pas. Il dit, mais non, c'est pas assez martial, moi j'ai besoin d'un chant qui fasse marcher un peu mes troupes, qui donne de l'enthousiasme. Alors, Rouget de Lys, un peu vexé, reprend son violon et puis écrit la Marseillaise qu'il va présenter chez le maire Dietrich. Et là, ça crée un enthousiasme absolument inouï. On sait comment, bon, un soldat va contaminer les Marseillais en leur chantant la chanson. Ils sont enthousiastes. Ils montent à Paris pour le mois de juillet 93 en chantant cette chanson. Et dès
ce chant de départ pour l'armée du Rhin, puisque c'est
qui devient
titre
la Marseillaise.
Oui, parce que ce sont des Marseillais qui la chantent, en fait. Enfin, des gens venant de Marseille, parce que la plupart, d'ailleurs, n'étaient pas spécialement Marseillais. Alors, il y a une grande époque de la chanson dont on n'aura pas le temps non plus de parler. Vous avez bien compris que je voudrais, en quelque sorte, balayer dans ce début d'émission tout ce panorama d'une chanson qui mériterait, presque par sujet, qui mériterait une émission entière. Hein. Mais il y a une grande époque, c'est cette période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, où l'on chante partout dans les théâtres, où l'on chante dans les rues. Ça va être le début de l'opéra bouffe, de l'opérette, etc. Et donc, on peut dire que à tous les échelons de la société, on chante. Et ce qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, c'est qu'on chantait en travaillant pendant longtemps. Moi, j'ai encore connu ça, il n'y a pas si longtemps, il y a une quarantaine d'années, les gens, dans leur travail quotidien, chantaient. On chante plus, on siffle plus aujourd'hui.
Oui, c'est un peu triste. C'est une chose que Brassens faisait remarquer, justement. Bon, c'est vrai qu'avant, le chant aidait beaucoup à travailler, surtout dans les travaux un petit peu pénibles, un petit peu difficiles. Puis il y avait des chants spécifiques à certains métiers. Mais c'est vrai que toute l'époque de la Restauration, il y a deux grands noms. Il y a Désaugiers qui va écrire ce fameux tableau de Paris à 5h du matin qui a eu un lointain écho chez nous
avec
Dutronc. Et puis évidemment le grand Pierre-Jean de Béranger qui va être le grand auteur de chansons du début du 19e siècle.
Alors on n'aura pas le temps trop de parler des chansons de Béranger aujourd'hui parce que ce que j'aimerais à partir de maintenant c'est que nous en venions à des périodes beaucoup plus récentes.
Europe 1. Et ne manquez pas dès 14h et jusqu'à 15h30 les experts Europe 1 présentés par la délicieuse Elena Morna qui vous propose aujourd'hui de parler d'auto, comment réduire les frais. Elle sera en compagnie d'un journaliste automobile au Figaro ainsi que d'Ignace Manca qui est journaliste au dossier familial. Rendez-vous dès 14h sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et jusqu'ici, toutes les chansons ont une histoire. Nous sommes toujours Franck en compagnie du parolier Claude Lemel. Nous a rejoint le spécialiste musical d'Europe 1, animateur de l'émission On connaît la musique, Thierry Lecan. On le retrouve le vendredi pour le mag de 23h à minuit, critique et spécialiste de la musique. Et puis le live, c'est le samedi de 22h à 1h.
Voilà, c'est presque la boîte de nuit d'Europe 1. Bonjour Thierry Lecan.
Bonjour Franck.
Merci de nous avoir rejoint. Claude Lemel, ce que j'ai oublié de vous faire préciser tout à l'heure, vous qui êtes président d'honneur de la SACEM, c'est la date de création de la SACEM. C'est très ancien finalement. Hein.
Alors, 31 janvier 1851.
Et voilà, hein.
Voilà. À la suite d'un procès en grivellerie qui avait été intenté contre un auteur, Ernest Bourget, qui, consommant dans une brasserie les ambassadeurs et voyant qu'il y avait un orchestre qui jouait sa musique, avait refusé de payer son verre parce qu'on ne payait pas son travail. Donc il a dit, il n'y a pas de raison que je vous paye travail puisque vous ne payez pas le mien.
Moi j'ai écrit de la musique, vous êtes en train de la jouer, vous ne la payez pas, donc il n'y a pas de raison que je paye le café. C'est comme ça que c'est
venu. C'est venu comme ça.
Qu'en fait, les droits d'auteur écrits existaient depuis Beaumarchais, donc depuis la toute fin du 18e siècle.
Ils existaient pour le théâtre.
Pour le théâtre.
Pour les représentations
théâtrales. C'est ça. Voilà. Il n'existait pas encore pour la musique, en fait.
Ah non, il a fallu attendre 1851 pour cela. Petite société au début comportant à peu près 60 personnes.
Ouais. C'est important, Thierry Lecan, cette histoire de droit d'auteur, parce qu'on est à la base même de la notion de création qui est très forte en France, encore une fois.
Hein. Surtout aujourd'hui. C'est-à-dire que l'explosion des médias de diffusion musicale dans tous les domaines possibles et imaginables par le biais des médias classiques, mais aussi Internet.
Oui, maintenant il y a Internet.
Évidemment, complique, c'est pas Claude Lemel que je vais apprendre ça, la tâche de ceux qui doivent effectuer les répartitions, c'est-à-dire effectivement les reversements pour ces droits d'auteur. Et plus le temps passe, plus la tâche est difficile, c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, ça devient difficile. Les droits d'auteur, d'une façon générale, quel que soit le domaine, quel que soit le métier, d'ailleurs, deviennent un véritable problème. Absolument. Je pense qu'on n'a pas mesuré l'incroyable impact d'Internet sur toute cette question. Enfin, ça, ce serait... Là, ce n'est sujet. Plus au cœur de l'histoire, c'est au cœur de l'avenir, ça. Cela dit, ce ne serait pas une intéressante...
C'est une autre émission.
Oui, c'est une autre émission. Alors, je disais... Thierry, que depuis le début, la France et les Français entretiennent un rapport très particulier à la chanson. Il y a quelque chose qui quand même, alors je ne dis pas qu'on ne chante pas ailleurs hein, dans le monde, mais il y a quelque chose qui est très spécifique hein, quand même en France.
Ah, puis il y a un rapport au texte voilà, qui est particulièrement important par rapport aux autres cultures. On s'en aperçoit d'ailleurs par le biais, et c'est valable depuis le développement, j'allais dire, de l'industrie musicale à partir des années 50 en particulier, avec cette explosion qui va naître 50-60, où là, même quand il y a des adaptations de mélodies étrangères et de textes qui n'ont pas été créés à l'origine en France, il y a souvent une relecture, une réécriture, Claude Lemel le sait bien, puisqu'il l'a effectué à de nombreuses reprises, pour donner du sens à la chanson, parce qu'on est extrêmement sensible au sens, et quand on traduit littéralement des paroles de chansons anglo-saxonnes, on s'aperçoit souvent d'un certain vide sidéral.
Oui, oui.
Donc nous, en France, on apporte quelques notions un petit peu plus subtiles, plus poétiques, et c'est ce qui nous touche très souvent.
Cette influence anglo-saxonne, elle est même plus ancienne, hein, puisque dès les années 20, on va voir un certain nombre de compositeurs et d'auteurs faire un petit tour aux États-Unis, découvrir un autre type de musique, évidemment, qu'ils vont rapporter en France. Un des exemples connus, c'est Mireille, bien entendu. On écoute Mireille, d'ailleurs.
Ouais. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous.
Le petit chemin, une chanson de 1933, Mireille, sur des paroles de Jean Nohain, Franck.
C'est le début du swing un peu, ça
Ah oui, tout à fait, en France, en tout cas. Bon, c'est vrai que Mireille est allée aux États-Unis, qu'elle a même rencontré Gershwin, et elle a été évidemment très sensible à ses influences, et c'est la première, effectivement, avant Trenet, qui a réussi à utiliser les rythmes et la façon de composer, même des Américains, et à l'adapter à la chanson française.
Trenet, qui était quand même une sorte d'ovni, si je puis dire, hein, lorsqu'il commence à chanter au milieu des années 30, il est en rupture totale avec ce qui se faisait jusqu'alors. On est loin de la chanson réaliste, on est loin de Damien.
Il apporte une légèreté dans les textes, alors une poésie, évidemment, une folie aussi, puisqu'il a un esprit quand même très libre, qui est absolument pas habituel pour un public qui découvre un personnage comme ça, avec une attitude totalement anachronique par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Il faut quand même pas oublier un élément qui est important, c'est que la chanson réaliste à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, elle est importante parce qu'elle va libérer quand même aussi la parole. On est face, moi je suis toujours très très surpris de voir le modernisme de la chanson des années 20-30 avec des personnages très souvent féminins au caractère absolument trempé, type Fréhel, Damien, Marianne Oswald, qui ont des angles de chansons, des angles de chansons qui ne passeraient plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'oserait plus dire ce qu'elle portait à l'époque. C'était très sexuel, c'était absolument choquant pour certaines oreilles. Et on est très très étonné de voir à cette époque-là apparaître ces personnages qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère.
Oui, c'est vrai. Il y a des chansons admirablement écrites, du Gris par exemple.
Qui peuvent être lues simplement, même sans aller jusqu'à les écouter.
Très beau texte.
On écoute Charles Trenet, alors dans un registre presque crooner, presque à l'américaine.
Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard, pour quelle raison.
Et ce que dit Claude Lemel en écoutant Charles Trenet, c'est que bien sûr Jean Sablon a chanté cette chanson, d'ailleurs elle avait même été écrite pour lui, et Trenet disait qu'elle avait demandé 3 minutes hein, pour l'écrire.
Oui, c'est ce qu'il disait, j'en doute un peu.
Cela dit, il écrivait souvent un peu vite.
De Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit qui nous fait faire un petit bond en arrière dans le temps pour nous raconter maintenant l'histoire de la Madelon.
Eh oui, cette chanson est devenue l'emblème des poilus. Il suffit d'en entendre les premières mesures pour se retrouver dans les tranchées de la Grande Guerre, ou plus exactement un petit peu à l'arrière du front, dans ces buvettes aux armées où se retrouvaient dans un entrain forcé les permissionnaires et les soldats en disponibilité. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon.
Nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère.
Alors qui était-elle donc, cette Madelon que tout le monde croit connaître à force de l'entendre acclamer ainsi? Si je vous réponds qu'elle était algérienne et pieds noirs, vous allez tendre l'oreille, mais c'est un petit peu l'ambition de la sortie. En vérité, l'auteur de la chanson s'appelle Louis Bousquet. Il sera d'ailleurs maire de Beauchamp dans le Val d'Oise un peu plus tard. En 1889, Bousquet avait fait un engagement, il était volontaire, au 3e régiment de zouaves de Batna en Algérie. Batna, capitale de l'Aurès, ça nous entraînerait ça sur encore un tout autre sujet. Le soir, il va avec ses camarades au café, le café qui est situé au camp, c'est-à-dire à l'intérieur des remparts, dans ce qui avait autrefois été un camp militaire. Or, les propriétaires, les Martins, ont une fille, non pas Lorena, mais Madeleine, et non pas Julia non plus.
Lorena, votre assistante. Hein.
Et oui, et Julia, vous appelez Martin aussi.
Oui, c'est bien moi.
Oui, voilà. Madeleine, qui fait office de serveuse, elle est charmante, avenante, complaisante, juste ce qu'il faut pour faire fantasmer les zouaves. C'est elle qui va inspirer les paroles de la chanson à Louis Bousquet sur la musique d'une marche de fanfare entraînante qui existait déjà et qu'il connaît, une musique signée Camille Robert. Nous sommes là en 1913, donc on a fait un petit saut dans le temps, on est presque 25 ans plus tard. Le chanteur Bach, il est engagé à l'Eldorado, boulevard de Strasbourg à Paris. Bach, vous savez, c'est un élève du célèbre Paulin. Il s'appelle en vérité Charles-Joseph Pasquier et son registre, ce sont ses chansons de cordes de garde. Il est ce qu'on appelle à l'époque un comique troupier. Il a fait avant l'Eldorado les beaux jours des ambassadeurs et de l'Alcazar d'été. Bach, le comique troupier, a besoin d'une chanson marquante pour ses débuts à l'Eldorado. Il passe commande à Louis Bousquet d'une chanson à mi-chemin entre la marche et la chanson à boire. C'est donc l'origine de la Madelon, créée par Bach à l'Eldorado le 23 avril 1914. Alors vous vous dites ça, c'est le succès assuré. Eh bien, pas du tout. La Madelon est un bide, si je puis dire. Elle le restera même lorsqu'elle est reprise le mois suivant par Paulin. Elle va rejoindre pas mal de nanars dans le tiroir aux chansons qui n'auront pas trouvé leur public. Vous savez, il y en a tellement, tellement, tellement. Sauf qu'il faut toujours compter avec l'humeur du moment et que l'humeur en 1914, bien sûr, est très belliqueuse. Le 2 août, c'est la mobilisation. Un artilleur qui, à l'époque, se trouve cantonné à l'école Jules Ferry de Fontenay-sous-Bois, il s'appelle Sioule, se trouve être un ancien de la troupe de Bach à l'Eldorado, donc il l'a chantée cette Madelon, il va la rechanter pendant à ses heures perdues, si je puis dire, à ses camarades de chambrée, et là on ne sait pas pourquoi, ça prend. Et ça prend tellement que la chanson se répand, on la voit par le biais des armées, hein, des soldats eux-mêmes, on la voit se répandre un peu partout, et voilà Bach, de son vrai nom Pasquier, qui mobilisé pour sa part au 140e régiment de Grenoble, dont il était originaire, voilà Bach qui entend revenir par la bande la chanson qui n'avait pas eu de succès à l'Eldorado. Il entend d'autres la chanter. À ce moment-là, il va la reprendre, mais il va la reprendre dans un contexte tout autre. Car entre-temps, sur recommandation du général Gallieni, Bach s'est vu confier une mission de divertissement des troupes. C'est l'embryon de ce qui, l'année suivante, début 1917, va devenir le théâtre aux armées. On est encore en 1916. Bach parcourt les villages des Vosges, de l'Alsace, où viennent se détendre les permissionnaires. Et le reste, la suite, vous la connaissez forcément. C'est le succès incroyable de cette Madelon qui va se répandre comme une traînée de poudre à travers les tranchées de la Grande Guerre.
Épis de fantaisie, s'en va trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main.
Ah, cette main de Lons, ça a été vraiment... On peut dire que d'une façon plus générale, le genre du comique troupier a eu un très grand succès jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Claude Demel.
Oui, absolument. Bah, c'est né évidemment de la défaite de 70. Ouais. Et la France préparait la revanche. Donc le comique troupier était un genre extrêmement important. Il y en a eu beaucoup. Bon, et le tout dernier, on a pu le voir à la télévision. Hein, c'était Ouvrard, quand il chantait son fameux « Je ne suis pas bien portant ».
J'ai la rate qui se dit là. Il passait tout le temps chez Jacques Martin, lui, là, je me rappelle.
Et chez Guy Lux.
Et chez Guy Lux, voilà. Alors, nous en venons justement à l'époque de Guy Lux et de Jacques Martin. Nous en venons à une période plus récente pour parler de ce qu'est devenue la chanson française, j'ai envie de dire, sous nos cieux contemporains.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur de l'histoire de la chanson française aujourd'hui.
Alors on en écoute une très belle chanson française qu'on a passée l'autre jour en allemand. On va l'avoir maintenant, si vous voulez bien, version française, dans la voix absolument inimitable de la divine Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense.
C'est extraordinaire cette chanson Göttingen qui a eu un destin récent assez étonnant, Thierry Lecan.
Oui, absolument. J'ai été très très surpris en début d'année au moment du 50e anniversaire du traité franco-allemand. De l'angle choisi par tous les médias pour évoquer cet événement et cet anniversaire historique. C'est-à-dire un reportage, que ce soit dans les journaux télévisés de 20h ou ailleurs dans la presse d'ailleurs, un lien direct avec cette chanson de Barbara Göttingen, qui est effectivement une chanson qui parle de la réconciliation, du fait de son passé, puisque c'est une enfant juive qui avait eu de problèmes pendant la guerre et pendant son enfance. Et cette chanson qu'elle crée en 64 à l'occasion d'un voyage en Allemagne pour aller chanter à Göttingen, à l'invitation d'étudiants allemands en particulier. Elle devait y chanter un soir, elle y chantera une semaine, et donc elle écrit cette chanson sur place, en tout cas elle la commence sur place, puisqu'elle la finira selon la légende à Paris, a été utilisée comme le point de départ de cet anniversaire. Ouais, et c'est assez intéressant de constater que 50 ans, pour fêter les 50 ans, ou en tout cas commémorer les 50 ans de ce traité franco-allemand, on choisisse une chanson pour effectivement éclairer l'actualité.
Et quand je vous dis que ces chansons sont très présentes dans l'histoire, en vérité, y compris donc dans l'histoire récente. Alors, c'est peut-être dû à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la très grande importance du texte dans les chansons françaises. Les chansons françaises sont des chansons qu'on écoute pour leur texte et pas seulement pour leur musique, bien entendu. Oussama nous dit, n'oubliez pas de parler du meilleur, de l'inégalable Georges Brassens. Non seulement nous allons parler de Georges Brassens, mais si vous voulez, on va l'écouter. Écoutez tout de suite.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets.
Ça va le soi. Alors justement, Claude Lemel, on peut dire qu'il y a dans les années 50 une sorte d'âge d'or de la chanson française. Quand même, à la même époque, on a bien sûr Brassens, Jacques Brel, Reggiani, Barbara qui va commencer bientôt, Becco bien sûr,
Félix Leclerc,
etc. Enfin, c'est extraordinaire.
Il ne faut pas oublier.
Comment expliquer cette efflorescence extraordinaire dans une décennie comme c'est, dont on peut dire qu'elle est peut-être la décennie d'or de la chanson française?
L'expliquer, c'est un petit peu difficile. Bon, c'est comme pour les vins. Il y a des bons crus, il y en a de moins bons. Mais enfin, c'est vrai que, par exemple, l'extraordinaire foisonnement des cabarets, par exemple, a favorisé ça. Bon, le nez aussi d'un homme comme Jacques Canetti, c'est un découvreur de talents absolument extraordinaire.
Les cabarets, on pense à l'Écluse, hein, par exemple.
Alors, l'Écluse, lui, c'était les Trois Baudets.
Les Trois Baudets,
il y a le Cheval d'Or aussi, où sont nés Bobby Lapointe, Anne Sylvestre, Rice et Barrière. Enfin bon, des gens très importants aussi. Bon, et puis il y a toute une culture de la chanson à ce moment-là. Bon, avec Becco qui va, lui, effectivement à l'instar de Trenet dans les années 30, insistait aussi bien sur le texte que sur le rythme. Bon, monsieur 100 000 volts, hein, bon, ça va totalement dynamiser la chanson française.
C'est la version années 60 du Trenet des années 30, hein, quoi.
Années 50 même, puisque Beko, oui, c'est 53-54. Bon. Et avec le souci d'avoir de très bons textes avec Louis Amad, Maurice Vidalin, Pierre Delanoë et galvanise la jeunesse. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire que les chanteurs à texte d'aujourd'hui qu'on a vu naître depuis la fin des années 90, Thierry Lecan, s'inspirent de cette période-là?
Certains. Il y a eu, on a alors de manière un peu exagérée évoqué une nouvelle chanson française, comme il y en a une tous les 20 ans en gros, hein, quand même. Hein, faut pas l'oublier, puisque dans les années 70, c'était.
Il y avait aussi la nouvelle chanson.
Voilà, il y avait encore cette nouvelle chanson française, elle revient régulièrement. C'était les Souchons, c'était les Yves Simon, c'était tous Cabrel. Ces personnages-là. Cabrel, bien sûr. Et puis, les années 90, il y a eu Benabar. Alors, Benabar, oui, s'inspirant du quotidien, effectivement, on peut trouver un petit lien avec la chanson réaliste. Il y a eu Renaud plus tôt, évidemment. Il y a eu Delerme avec un autre traitement, une autre approche de la chanson. Donc, oui.
Retour au texte, en tout cas, incontestablement.
Par exemple, un jeune artiste qui est un petit peu moins populaire, qui s'appelle Anis, revendique, par exemple, l'influence de personnalités qu'on a un peu oubliées dans cette décennie 60 avec la période des cabarets. Les cabarets, comme le disait Claude Lemel, qui ont été quand même une possibilité pour des artistes d'émerger. C'est valable pour Aznavour, plus tard pour Le Forestier. Enfin, il y a eu plein de gens comme ça qui sont apparus grâce à ces lieux qui malheureusement ont disparu à la fin des années 60, début des années 70. Mais c'est vrai que c'est très très important.
Claude Lemel parlait tout à l'heure de Félix Leclerc. C'est vrai que la chanson française, qu'on appelle française, on devrait d'ailleurs dire plutôt francophone, parce
qu'il
y a un certain nombre de grands chanteurs étrangers, et je pense évidemment à Jacques Brel, qui, lui, qu'on le veuille ou non, était quand même belge.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pas moi.
Jacques Brel sur Europe 1. Avec Ne me quitte pas, restez à l'écoute de votre radio. On continue à parcourir la chanson française tous ensemble.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la chanson française est à l'honneur, Franck.
Et oui, alors nous aurions bien aimé avoir des Augiers dans ce studio ou Béranger, mais ils n'étaient pas disponibles et ils nous ont délégué leur jeune mais digne successeur en la personne de Claude Lemel, qui quand même a écrit des paroles pour Reggiani, pour Montagnier, pour Nana Mouskouri, pour Gilbert Beco et bien sûr pour Joe Dassin. Rappelez-vous ceci.
Où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Tout le monde chante et danse en régie, Franck,
oui,
sur Joe Dassin, les Berlins.
Se balance sur l'été indien, ça doit vous faire chaud au cœur, ça, Claude Lemel. Racontez-nous l'histoire de cette extraordinaire chanson qui est toujours aussi actuelle, hein, elle n'a pas pris une ride.
Bah écoutez, merci. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. C'était une chanson qui, au départ, s'appelait Africa. Chanson italienne, mais dont les paroles étaient en anglais, curieusement. Et ça racontait l'histoire d'un black américain qui disait « Oh, je suis pas bien ici, il faudrait que je revienne en Afrique ». Bon, on imaginait mal Joe en train de chanter un tel sujet. Bon, il n'était pas tellement comédien, donc je ne pense pas que ça lui aurait bien convenu.
Le rôle de composition, c'était pas son
Non, c'était pas son truc. Le rôle de compositeur, oui, mais pas de composition. Et donc, bon, il nous est venu cette idée à Pierre Delanoë et moi-même. Et on a été à Deauville écrire donc cet été indien. Lorsqu'on est arrivé.
C'est un peu un paradoxe quand on connaît l'été indien à Deauville. Oui, c'est un peu plus vieux généralement. J'en parle en connaissance de cause.
Quand on est arrivé chez Joe pour lui montrer le texte, il l'a aussitôt adopté, ce qui était rarissime avec lui, parce que c'était un type extrêmement méticuleux et qui vraiment contestait phrase par phrase, tout là, il nous dit rien n'a changé, nous on dit alléluia, le directeur artistique arrive et nous dit, écoutez, votre texte est formidable, il y a juste deux choses à changer, il faut enlever l'été indien parce que personne ne sait ce que c'est, et il faut enlever Marie Laurencin parce que personne ne sait qui c'est. Oui. Alors c'était un très bon directeur artistique en plus, il s'était repris une fois dans sa vie, c'était ce jour-là. Et je l'ai lutté un tout petit peu, du haut de mes 30 ans, j'étais très timide, mais là, bon, j'étais quand même convaincu, donc je l'ai lutté, et je crois qu'on a eu raison, puisque l'expression « été indien » est rentrée dans le dictionnaire Larousse grâce à cette chanson, et je crois même que la chanson a eu un certain impact, d'après ce qu'on m'a dit, sur la cote de Marie Laurencin.
Et oui, d'ailleurs, finalement, ça a fait monter le prix.
Ce qui est invraisemblable.
La cote des tableaux de Marie Laurencin, c'est un peu comme quoi tout est lié, finalement, dans l'art. On peut dire, Thierry Lecan, qu'avec Joe Dassin, on est dans une autre génération de chanteurs. Là, c'est autre chose.
Ah oui, là, on est dans la génération. Alors, Joe Dassin, c'est à partir des années 60, hein, jusqu'à sa disparition, années 80, début de la décennie 80, avec une grande période de la chanson, alors qui est très multiple dans les années 60, puisqu'il y a des familles qui sont différentes. Voilà. Il y a une espèce de... Il y a toujours eu depuis...
Il y a des constellations qui coexistent.
Il ne faut pas oublier non plus que dans les années 60, c'était déjà le cas. Il y a eu les yéyés pendant quelques années. Il y a eu une réponse comme ça, très populaire, avec des chansons. Il y a quelques jours, Georgette Plana nous a quittés. Il ne faut pas oublier qu'en 68, elle chante Rikita, qui est une chanson des années 20, qui est numéro 1 au hit parade, alors qu'on est en pleine période de contestation avec les événements qu'on connaît, la vague hippie qui apparaît, l'influence anglo-saxonne qui s'impose. Donc, il y a toujours eu comme ça des familles qui se sont affrontées. Mais 70, c'est assez intéressant. C'est dû aussi aux médias, c'est-à-dire beaucoup d'émissions de variété à l'époque à la télévision avec Guy Lux, que vous citiez tout à l'heure, Jacques Martin, les Carpentiers, qui mettent en avant une certaine chanson populaire dite de variété. Et puis, il y a les auteurs de cette nouvelle chanson française qui ont aussi accès à l'époque, ils étaient plus chanceux qu'aujourd'hui, les Souchon, les Yves Simon, les Véronique Sanson, les Jonas, tous ces artistes qui ont une autre couleur, qui ont, qui appartiennent à une autre famille. Mais à l'époque, ce qui est formidable, c'est que tout le monde se mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, comme aujourd'hui, une espèce de regard un peu hautain de la part de certains, qui, parce qu'ils écrivent d'une certaine façon, regardent la variété un peu de haut. Alors c'est peut-être dû aussi au nombre d'artistes qui s'expriment, qui sont beaucoup plus nombreux avec le temps. Je ne sais pas exactement, c'est toujours très difficile d'analyser les choses et d'être définitif. Mais en tout cas, il y avait comme ça des alliances qui se créaient assez naturellement, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui.
Alors nous avons parlé tout à l'heure de l'influence des États-Unis sur la chanson française depuis le milieu des années 20. Enfin, ça s'est bien sûr développé beaucoup après la dernière guerre. L'inverse, si je puis dire, existe aussi. Il y a eu parfois de l'influence de certaines chansons françaises sur les chansons américaines. On connaît bien entendu le célèbre « Comme d'habitude » chanté, alors dans un premier temps, par Claude François, bien entendu.
Mais comme d'habitude.
On va faire plus souvent des émissions musicales, parce que j'aime bien les voir danser comme ça en récit.
C'est une folie aujourd'hui.
C'est formidable. Et alors, ça peut donner, bien entendu, version dans la voix de velours de Frank Sinatra, ça devient ceci.
Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark,
un petit peu inquiet, puisque Fabrice qui est aux manettes,
aux
si
manettes,
je puis dire, il est carrément en train de danser.
Le slow avec
j'espère
Mario.
J'espère qu'on nous entend quand même à l'antenne. Ces problèmes, enfin cette internationalisation des grands titres, des standards comme on dit, ça pose un problème sans doute de droit d'auteur, ça, Claude Lemel.
Oh non, non, c'est plutôt bon pour les droits d'auteur.
Oui, ah ben ça,
bon, maintenant,
forcément.
Il faut que les sociétés, évidemment, dans lesquelles les chansons sont diffusées, fassent bien leur travail. À la SACEM, évidemment, on est tributaire. Bon, si la chanson passe aux États-Unis, du travail de la société, ou plutôt des sociétés américaines. Mais c'est quand même formidable de voir bon toutes ces reprises. Bon, il y a aussi les chansons de Trenet, La Mer, Somewhere oui. Beyond the Sea, qui est une chanson extrêmement chantée à l'étranger.
De renaissance de Charles Trenet, qui a connu, on peut dire, une deuxième carrière à partir du début des années 80.
Hein, absolument.
Alors qu'il était quand même devenu une sorte de référence, mais des chansons passées. Et là, d'un seul coup, il redevient à la mode. Moi, j'ai assisté à tous les derniers grands récitals de Charles Trenet. La salle était composée en grande partie de jeunes et de jeunes qui étaient très enthousiastes, Thierry Lecamp.
Et oui, c'était valable aussi pour Barbara.
Oui, d'ailleurs, voilà. Exactement.
Voilà. C'est une redécouverte d'un répertoire. D'ailleurs, ce qui est assez amusant aujourd'hui, même moi qui suis... face à la production actuelle en permanence et en train d'écouter les nouveautés qui arrivent jour après jour, on s'aperçoit que les artistes revendiquent toujours, à très peu d'exceptions quand même près, le travail de leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans la production anglo-saxonne, on s'aperçoit que les jeunes artistes ont un son qui ressemble à celui des années 60, avec les influences soul, blues, musique noire américaine, jazz.
Soul, blues et musique noire, vous dites. Oui. Vous dites bien quand même une forte influence anglo-saxonne. Ce qui est assez fascinant chez les tout jeunes chanteurs, oui. C'est qu'ils ne veulent pas tous, mais certains ont du mal à vouloir chanter en français. Hein. Ils aiment bien chanter en anglais.
Ça, c'est souvent les débuts de carrière avec un complexe d'écriture. C'est-à-dire que comme on a une exigence par rapport aux formules qui sont utilisées dans les chansons françaises, de jeunes auteurs qui arrivent sur le marché ont parfois une sorte de peur de s'exprimer en français par peur du jugement et donc préfèrent se réfugier derrière la langue anglaise, parce qu'évidemment, en France, on la maîtrise moins bien et ça peut passer beaucoup plus facilement, puisqu'on s'attache dans ce cas précis, beaucoup plus aux mélodies qu'aux textes.
Et voilà.
Mais souvent, après quelques années, ça évolue.
C'est ce qu'on appelle le yaourt dans le métier, c'est-à-dire qu'on chante à peu près n'importe quoi pourvu que ça sonne bien, c'est ça ?
Le yaourt est surtout utile pour les paroliers, c'est-à-dire qu'un compositeur fait une musique, il va faire comme mon ami Michel Fugain, par exemple, Chocoway, bon, et après on est chargé de trouver des choses intelligentes.
Oui, qui viennent dessus, quand même.
Là-dessus. Mais il y a un autre phénomène que celui qui a été évoqué, c'est le fait de l'auteur-compositeur-interprète à tout craint. C'est-à-dire tout le monde veut tout faire.
Oui.
Or, ce sont trois dons extrêmement différents. Celui de la musique, celui du texte, celui de l'interprétation. Je pense qu'actuellement, en France, il n'y a pas assez d'équipes. Les gens travaillent trop en vase clos.
Bravo,
et
il faut
de vrai
dire,
bon, quand on est un très bon compositeur, s'entourer de très bons auteurs, ce qui se faisait dans le temps, ça se fait beaucoup moins maintenant, et ça c'est dommage.
Oui, c'est un mal très français, hein, il faut le dire.
Je pense qu'il y a aussi un mal générationnel, que les jeunes générations ont un peu de mal à travailler avec les anciennes, ce qui ne se fait pas du tout aux États-Unis, par exemple.
Oui,
aux États-Unis, un grand auteur 70-75 ans travaille beaucoup. Ici, c'est très générationnel, c'est un
Merci
peu dommage.
Merci beaucoup Claude Lemay. L'art d'écrire une chanson, c'est des éditions Erol. On vous retrouve ce soir, bien
oui,
entendu. Hein,
pour le mag, 23h.
À 23h. Et puis, puisque vous parliez de Georgette Plana et de Riquita, un petit clin d'œil à la mémoire de mon grand-père qui adorait cette chanson. On l'écoute là maintenant, justement.
Riquita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcelle, ton doux chant émouvant nous appelle. Riquita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours.
Georgette Plana qui vient de nous quitter et notre jolie fleur de Java est entrée dans ce studio. Bonjour Elena.
J'avais pas compris que c'était moi la jolie fleur de Java, mais je prends, j'adore. Bon, alors aujourd'hui avec les experts européens, on va tenter de conserver toutes les fleurs en roulant si possible en voiture non polluante. On va vous parler de l'hybride justement, d'autres moteurs qui utilisent donc des carburants propres comme on dit. Vous voulez en savoir plus? Eh bien vous nous contactez 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou europe1.fr.
Merci beaucoup Elena. Après les voitures hybrides, l'émission hybride, c'est au cœur de l'histoire. Mais la vôtre aussi est pas mal dans le genre. Alors, on essaie de faire dans tous les registres.
Exactement.
Bon week-end à tous. Nous nous retrouvons lundi, Julien.
Avec grand plaisir. À lundi, cher Franck. Il est 14h sur Europe. Un bel après-midi à tous.